RTN Info, Claire Viget.
Bonsoir, bientôt le clap de fin pour la 18e édition du NIF, le palmarès de la compétition internationale du Festival du film fantastique de Neuchâtel, sera dévoilé en soirée. Ils passent souvent inaperçus parce qu'ils attendent la tombée du jour pour sortir au grand air. Le Centre Nature de la Sauge organise ce soir une observation crépusculaire des animaux. Le Néerlandais Dylan Groenewegen a remporté la 8e étape du Tour de France cycliste. Il s'est imposé au sprint et réalise le doublé. Le Belge Grang van Avermaet est toujours maillot jaune. Et puis il y a de l'orage dans l'air, de violents coups de tonnerre pourraient éclater ce soir et cette nuit. Demain, sous un ciel partagé, il va faire chaud. Tous les détails sur la météo de ces prochaines heures dans un petit quart d'heure. Clap de fin dans quelques heures pour le Neuchâtel International Fantastic Film Festival, le NIF pour faire court. Durant une dizaine de jours, le public a pu visionner 150 films en provenance d'une quarantaine de pays, profiter d'un cinéma open air et de différentes activités et conférences. La manifestation attire des amateurs du genre de bien au-delà des frontières cantonales et nationales. Cet après-midi, à deux pas du Cinéma Rex, nous avons rencontré deux Belges, Cédric et Frédéric.
On a été très très bien accueillis par les gens du festival et par tous les gens de Neuchâtel. Ensuite, au niveau de la programmation, il y a vraiment eu différents styles vraiment agréables, de l'intellectuel que j'ai pas compris, mais il a dû m'expliquer, hein. Frédéric peut en parler mieux que moi, mais beaucoup beaucoup de films très très chouettes et si je peux déjà le dire maintenant sans trahir, j'ai vraiment aimé Climax, vraiment.
Vous avez vu des trucs que vous avez plus compris que votre collègue?
Non, parfois c'est lui qui m'expliquait en fait le sens de certains films, parce que quand on regarde des films à 1h du matin, qu'on est un peu fatigué, c'est vrai que des fois on se décide de rester concentré, mais à part ça c'est vrai que la sélection du NIF cette année-ci est pour moi bonne, on va pas dire excellente mais bonne, par rapport au festival qu'on a fait déjà cette année à Bruxelles par exemple. C'était un tout petit peu au-dessous de la programmation, mais bon, il y a beaucoup de facteurs en fait qui entrent en compte pour la sélection des films du festival, donc tout dépend des sorties, de ce que les festivals acceptent, des sélectionneurs, etc. Donc, mais sinon, de manière générale, on s'est vraiment bien plu ici. Oui.
La compétition internationale présidée par David Cronenberg livrera son palmarès sur le coup de 21h. Certains animaux attendent le coucher du soleil pour sortir de leur réserve. Pour mieux faire connaissance avec eux, le Centre Nature de la Sauge organise ce soir jusqu'à 21h30 une observation crépusculaire. Depuis 4 ans, cette manifestation tardive accueille 70 à 100 personnes. Cette année, ils auront à leur disposition des appareils optiques conçus pour ces conditions particulières de luminosité. Annalisa Machiti, la directrice du Centre Nature, nous explique comment est née l'idée de ces observations crépusculaires.
À la base, elle nous est venue en 2016, parce qu'en 2015, nous avons eu un couple de castors qui a élu son domicile à la Sauge. Et puis on se disait, ah mais zut, les visiteurs, ils peuvent pas voir le castor, ils peuvent voir que la hutte pendant la journée. Du coup, on va ouvrir le soir jusqu'à 21h30 pour donner cette possibilité-là. Maintenant, le couple de castors, il est toujours présent, hein, mais il fait les allers-retours entre le canal de la Broye. Donc c'est vrai que c'est un peu moins visible par rapport aux autres années, mais on s'est un peu rendu compte que les gens, ils sont très contents parce qu'ils peuvent voir aussi d'autres espèces qui ne sont pas visibles la journée. Donc c'était un succès les années passées et on a envie de le reproposer cette année aussi.
Et une seconde soirée d'observation crépusculaire est prévue toujours à la Sauge, ce sera le 4 août. La plage des Six Pompes a posé aujourd'hui ses valises dans le Jura bernois. Le festival chaudefenier des arts de la rue s'est déplacé le temps d'une journée à Tramelan. Il s'y est rendu dans le cadre du Six Pompes Summer Tour mis sur pied pour le 25e anniversaire de la manifestation. Depuis mercredi et jusqu'au 12 août, 7 communes deviendront le terrain de jeu des compagnies présentes ensuite à la Chaux-de-Fonds. Thomas Houle, chargé de projet du Six Pompes Summer Tour, nous explique les raisons de cette tournée.
On a envie d'offrir justement déjà au public les spectacles en libre accès, aux artistes, leur proposer une aide à la diffusion, au lieu de les amener juste à la plage des Six Pompes, on leur propose sur 3 semaines 3 ou 4 dates. Et finalement, une des dernières missions, c'est en fait d'offrir aux villes la possibilité de mettre en place des animations d'art de rue en fait chez elles, en leur donnant un petit coup de main, en leur donnant un peu notre expertise de la plage des Six Pompes, et voilà, qu'elles puissent offrir à leur public des spectacles en libre accès chez elles. Le but, voilà, c'est vraiment les villes, les communes, les sociétés culturelles à mettre en place de l'art de rue, et puis pourquoi pas plus tard justement qu'elles s'autonomisent, qu'elles arrivent elles-mêmes à proposer des spectacles d'art de rue chez elles sans forcément notre aide, et créer peut-être des antennes, et puis voilà, faire que l'art de rue est accessible partout, tout le monde peut en mettre en place, et puis voilà, qu'il y en ait si possible partout en Suisse.
Après Tramelan, le Six Pompes Summer Tour fera notamment halte à l'Athènes le 31 juillet et à Yverdon le lendemain. Vacances oblige, le tunnel du Gothard se retrouve totalement engorgé de véhicules. Tôt ce matin, une colonne longue de 14 km bloquait l'entrée nord de l'ouvrage. En cours de journée, la colonne s'est résorbée. Elle était de 5 km à 17h. De nouveaux encombrements sont attendus demain, toute la journée. Via Suisse rappelle qu'il existe des itinéraires alternatifs pour se rendre vers le sud, notamment par le San Bernardino et les cols alpins du Simplon, du Grand Saint-Bernard, du Ry et de Berne. L'ambassadeur de Turquie en Suisse a annoncé hier la levée prochaine de l'interdiction de voyager pour les 7 binationaux turco-suisses retenus en Turquie. Aujourd'hui, dans la presse, il a nuancé ses propos. Dans une interview parue dans les journaux du groupe de presse Tamedia, l'ambassadeur a précisé que son annonce ne concerne que les doubles nationaux interdits de voyager en raison de mesures administratives prises à la suite du coup d'État manqué de juillet 2016. En revanche, les personnes qui sont interdites de voyager sur la base d'une décision de justice ont besoin d'une nouvelle décision d'un tribunal. Près de 4300 militaires ont paradé à Paris cet après-midi. Les traditionnelles festivités du 14 juillet se sont tenues dans la capitale française. Elles avaient pour thème fraternité d'armes, un thème tout choisi pour le président français Emmanuel Macron, lui qui a entretenu des relations compliquées avec ses forces armées au début de son mandat. De Paris, une correspondance de Stéphanie Wenger.
C'est un week-end placé sous le signe de l'enthousiasme et de la ferveur nationale qu'a ouvert le défilé du 14 juillet à Paris. Emmanuel Macron a descendu les Champs-Élysées en commande-car aux côtés du chef d'état-major. Cette année, le climat est plutôt au beau fixe entre le président français et la grande muette. On se souvient que l'an dernier, la démission du chef d'état-major Pierre de Villiers avait fait grand bruit. Le général protestait ainsi contre la faiblesse du budget de la défense. Une critique qui a porté apparemment, puisque la loi de programmation militaire promulguée hier prévoit d'atteindre les 2% du PIB. Après la parade, Emmanuel Macron a passé un moment avec les blessés et leurs familles. C'est l'occasion de rappeler que 30 000 hommes et femmes sont engagés en opération ou en mission sous le drapeau français. Cette année, 8 d'entre eux ont perdu la vie. En 2018, pas d'interview du chef de l'État. Il a rompu avec cette tradition l'an dernier. Difficile de revenir dessus. De toute façon, l'attention du pays est très largement captée par la finale de la Coupe du Monde, France-Croatie, demain. Et en cas de victoire, beaucoup devraient la célébrer dans la rue, pas seulement sur les Champs-Élysées, mais partout en France.
Le Pakistan sous le choc aujourd'hui au lendemain d'un sanglant attentat suicide qui a tué 128 personnes. À Baloutchistan, l'attentat, le troisième à frapper une réunion électorale cette semaine dans le pays, a été revendiqué par le groupe État islamique. Ce drame a coïncidé avec le retour et l'arrestation de l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif, bousculant une campagne électorale déjà très tendue pour les élections législatives du 25 juillet. Deux jeunes ont été tués au Nicaragua durant une attaque menée par les forces pro-gouvernementales contre une église de Managua. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'église catholique. Des dizaines d'étudiants y étaient retranchés depuis hier soir. Ils participaient aux manifestations contre le président Daniel Ortega.
Sport.
Et à 18h18, il est temps de parler sport en votre compagnie, Yann Esler. Bonsoir.
Hein. Bonsoir, et on parle tout de suite petite balle jaune. La finale dame de Wimbledon bat son plein. L'Allemande Angélique Kerber a remporté le premier set face à l'Américaine Serena Williams 6-3. C'est actuellement 3-2 pour Angélique Kerber. Dans le deuxième set, Serena Williams est en train de servir. Toujours en tennis et à Wimbledon, Léonie Kung n'a pas marché sur les traces de Martin Hingis et de Belinda Bencic. La Chavoise n'est pas devenue la troisième Suissesse à enlever le tournoi junior. Issue des qualifications, Léonie Kung s'est inclinée 6-4, 6-2 en finale devant la Polonaise Iga Świątek après 1h13 de match. Chez les hommes, au lendemain du marathon victorieux de 6h36 de Kevin Anderson, Novak Djokovic accède lui aussi à la finale à l'issue d'une rencontre qui marquera l'histoire du tournoi. Le Serbe s'est imposé en 5-7, 6-4, 3-6, 7-6, 3-6, 10-8 devant Rafael Nadal après 5h14 de jeu. Cette rencontre avait été interrompue la veille à l'issue du troisième set, peu après 11h pour respecter la quiétude du voisinage. Elle a repris aujourd'hui sous le toit à la demande de Novak Djokovic comme le règlement le lui permettait. On passe au cyclisme. Le néerlandais Dylan Groenewegen a remporté la 8e étape du Tour de France. Il s'est imposé au sprint devant le Slovaque Peter Sagan, suivi de l'Allemand John Degenkolb. Il s'agit de son 2e succès en 2 jours. Le Belge Greg Van Avermaet garde le maillot jaune de leader à la veille de l'étape des pavés de Paris-Roubaix. Le résumé de cette étape est signé Simon Brotala.
Encore une journée tranquille sur les routes du Tour de France en ce jour de fête nationale. 181 km au programme de cette 8e étape entre Dreux et Amiens. Pas une seule goutte de pluie sur les routes d'Eure-et-Loire et de Picardie. Après seulement 25 km, deux coureurs décident de lancer une attaque. Fabien Grelier, le Vendéen de l'équipe Direct Energy, et Marco Minard, néerlandais de la formation Wanty groupe Gobert. Deux hommes qui compteront jusqu'à 6 minutes d'avance. Fabien Grelier, dernier échappé du jour, sera repris à seulement 6 km du terme dès l'entrée dans la ville d'Amiens. Place à l'explication finale entre les sprinteurs, et comme hier, le plus fort, c'est Dylan Groenewegen, le néerlandais qui s'offre un doublé au lendemain de sa victoire à Chartres. Il devance Peter Sagan et John Degenkolb. La fin d'étape est marquée également par une chute dans le peloton à 17 km de l'arrivée. Dan Martin, vainqueur à Mur de Bretagne, se retrouve pris dans cette chute. Il perd 1 minute 15 au général. Le Belge Greg Van Avermaet conserve son maillot jaune de leader devant Geraint Thomas et TJ Van Garderen.
Et demain, la 9e étape longue de 156,5 km entre Arras et Roubaix emprunte des secteurs pavés sur 21,7 km, le dernier est situé à 8 km de l'arrivée. Enfin, en football, nouveau match référence pour Neuchâtel Xamax FCS. Les Rouges et Noirs ont obtenu le nul 1 partout face au PSV Eindhoven en match amical. Dans cette partie disputée au Châble, en Valais, le but xamaxien a été l'œuvre de Arbenit Djemaili.
Coupe du monde de football avec Anser et son passe liberté. Remontée mécanique, bain et carte postale offert cet été. Anser.ch.
Et finalement, c'est la Belgique qui a gagné la petite finale. À défaut de jouer le titre demain, les Diables Rouges ont reporté le match pour la 3e place de la Coupe du Monde face à l'Angleterre. Les Belges se sont imposés 2-0 à Saint-Pétersbourg avec des buts de Thomas Meunier et Eden Hazard. Et demain, place au grand rendez-vous, la France et la Croatie en décompteront en finale de cette Coupe du Monde. Le coup d'envoi de la partie sera donné à 17h au stade Loujniki de Moscou. Les Vatreni ont joué 90 minutes de plus que les tricolores dans ce mondial. Ils ont en effet dû passer par les prolongations durant tout leur match de phase finale. La France, qui a joué mardi, compte qui plus est un jour de repos supplémentaire. L'état physique de l'adversaire ne devrait toutefois pas rendre la tâche des Bleus plus facile, selon le défenseur Samuel Umtiti.
En fin de compétition, il y a de la fatigue. Et surtout quand on a enchaîné 3 prolongations, je pense qu'ils, physiquement, ils doivent être fatigués. Mais après, quand on joue une finale, je pense que ça passe après. La fatigue, on n'y pense pas trop. Sur un match, on se dit qu'on peut être champion du monde. Donc même avec la fatigue, je pense qu'ils seront là, ils seront présents. Ils vont continuer à courir comme ils le font sur tous leurs matchs.
Et la France disputera demain sa 2e finale consécutive dans un grand rendez-vous. Il y a 2 ans, elle s'était vue privée du titre de champion d'Europe par le Portugal. S'ils partent à nouveau favoris demain face à l'outsider croate, les Bleus n'aborderont pas cette finale de la même manière. Le milieu de terrain, Paul Pogba.
À l'Euro, on pensait que c'était déjà fait. La mentalité, elle n'était pas pareille. Je ne veux pas mentir, c'est quand on a gagné contre l'Allemagne, on pensait que c'était ça la finale en gros. Même si c'est vrai que c'était les Portugais, avec leur parcours, on s'est dit bon, c'était gagné d'avance. Maintenant, c'est pas pareil. On est tous conscients, on est tous concentrés. On ne veut pas faire la même erreur qu'on a faite auparavant. On veut vraiment aborder ce match différemment et on veut vraiment aller la chercher. Et on va vraiment se concentrer, donner tout pour ramener cette coupe à la maison.
Et de son côté, la Croatie a une revanche à prendre. Demain, à Moscou, elle n'a pas oublié la défaite subie en demi-finale contre la France lors du Mondial 1998, 98 pour les Français. Pour tenter d'effacer ce mauvais souvenir, les joueurs au damier pourront compter sur leur gardien qui évolue à l'AS Monaco, Daniel Subasic.
C'est un rêve de jouer la finale Coupe du Monde, surtout contre mes amis. Donc, je suis très content. Maintenant, c'est 2018. Maintenant, c'est nous. C'est fini les 98 parce qu'on est plus fort.
La finale de la Coupe du Monde en Russie entre la France et la Croatie, c'est donc demain à 17h au stade Loujniki de Moscou.
Le journal de la Coupe du Monde de football.
Le journal de la Coupe du Monde.
Des orages en perspective ce soir et cette nuit. Ils pourraient être localement assez violents. La journée de demain débutera sous un ciel partagé entre larges moments de soleil et bouffées nuageuses remontant depuis le sud-ouest. Comme quelques heures plus tôt, les nuages pourraient dégénérer en foyer orageux, tant en montagne qu'en plaine. Malgré cela, bien sûr, il va faire chaud entre 13 et 18 degrés à l'aube et de 23 à 28 degrés l'après-midi. Le début de la semaine prochaine s'annonce aussi sous les mêmes auspices avec peut-être quelques degrés de moins. Il faudra peut-être mettre un petit pull.